belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
Eh bien, la belle rencontre d'aujourd'hui, je vous propose de la partager avec une femme engagée, combattante, combative. Psychologue de formation, elle est prête à tous les échanges pour tenter de convaincre ou du moins d'ouvrir des fenêtres. Bonjour Françoise Mariotti.
Bonjour Nathalie, quelle responsabilité. Je vais changer votre monde, je risque de changer votre monde. Mon Dieu.
Déjà la phrase d'introduction.
Ah oui, 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 ça... on serait-je digne.
Mais moi aussi je prenais des risques, hein, parce qu'en disant ça, je savais que...
Non, vous ne prenez pas de risques. Je suis aussi psychologue, je ne suis pas que militante.
Françoise, vous rappelez qui est à la base de notre belle rencontre?
Je me souviens. Je peux dire qui c'est?
Bien sûr. Hein.
Alors, ça se passait à Saint-Jean-de-Cucul pour un échange féministe. Et oui, ça commençait déjà avec Martine Viguier. Mmh. En revanche, je ne me souviens plus du thème, Nathalie.
La sororité.
Oh mon Dieu, quel mot!
La sororité, c'était intéressant. On était en tout petit comité, on n'était que quatre.
Oui, oui.
Et les débats ont été poussés. Et il y avait là une jeune femme très... très spirituelle.
Oui.
Et nous étions...
Trois féministes en face.
Trois féministes en face.
Et elle nous a dit gentiment qu'elle ne l'était pas du tout.
Voilà.
Parce que les pauvres hommes... Bref, on le sait. On n'a pas essayé de la convaincre. C'est ça que j'ai aimé. Mais on a pu dire quand même, chacune, les unes et les autres, ce qu'on avait envie de dire sur la sororité, sur... C'est bien, c'est pas bien. On le constate, on le constate pas. On le vit pas. En tout cas, c'est un mot qui doit être aussi utilisé que fraternité, parce que la fraternité, en tant que femme, on sait très bien ce que ça occasionne, et c'est pas toujours notre avantage.
Mm-hmm.
Donc, vive ce joli mot, et merci Martine.
Et merci Martine de cette rencontre, Martine qui fait du lien, hein, souvent,
oui.
Voilà, qui aime faire ce lien. Et puis nous, on s'est trouvé plein de points communs ce jour-là,
oui.
Plein de réactions communes,
oui.
Plein de voilà, même des fois des choses épidermiques où on régissait en même temps toutes les deux.
Oui, tu notais ça. Hein, ouais, vous avez noté ça.
Ah, ouais, c'était ouais. Vraiment un moment de grâce dans un lieu gracieux d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
Mais moi, je vous avais repéré depuis un bout de temps. Hein, donc,
mon Dieu, ciel.
Et oui, parce que bon, je m'intéresse pas mal à tout ce qui se passe au niveau féministe.
D'accord.
On peut pas parler féminisme sur Montpellier sans tomber très vite sur Françoise Mariotti.
Je ramasse les gens après, vous inquiétez pas.
Ouais, ouais. Et puis, on avait aussi un croisement, c'était avec nos amis des éditions du Chèvrefeuille étoilé.
Tout à fait,
voilà.
Tout à fait. J'ai publié trois nouvelles et beaucoup de poèmes chez elles, des notes. Voilà, je les ai connues quand nous avions créé ensemble le collectif Citoyenne Maintenant, en 1995, et j'y suis toujours fidèle. Elle me confie quelquefois aux Gazettes Café des textes et des autrices à promouvoir. Et je me régale chaque fois.
Oui. Et on se régale aussi,
oui.
De ces belles rencontres.
Je crois qu'on a connu les mêmes, d'ailleurs.
Oui, j'ai fait la dernière, d'ailleurs.
D'accord,
Et avec beaucoup de passion,
ouais,
pour cette maison d'édition.
Janine,
voilà.
D'accord.
Et on lance pareil un bonjour à Martine Viguier et à Marie-Norelle Arras et à Janine Tesson. Voilà.
Oui.
Et à toute la bande du Chèvrefeuille étoilé. On va parler un petit peu de vous, déjà. Une enfance où?
Oh, écoutez, je suis une Corse de Marseille. Je suis née d'un papa qui est né dans le Cap Corse, près de Bastia, à la marine de Méria, et d'une maman qui est née à Ajaccio. Étant donné les circonstances de vie en Corse, ils sont arrivés à Marseille pour suivre leur famille. Ils étaient voisins et ils se sont rencontrés là. Donc, je vis à Marseille. Une enfance de petite fille corse, je revois encore avec... Parce que mes parents ne se parlaient pas corse, ils n'étaient pas de la même région, donc ils n'avaient pas les mêmes mots. Et je me revois dans la cour de récréation en train de parler de Rose, et les petites filles marseillaises autour me dire « Dis Rose !»« Rose ?»« Non, c'est Rose !»« Eh ben, c'est Rose !» Voilà, j'étais déjà étrange.
Une enfance heureuse ?
Ah zut, vous commencez par ça. Une enfance solitaire. Ma sœur avait 5 ans de plus que moi et je crois que j'ai attendu ma sœur désespérément pendant des années parce qu'elle était plus grande que moi, elle jouait pas avec moi. Donc j'ai appris à jouer seule, à me contenter seule, à faire des choses seule, mais je l'attendais quand même désespérément. Elle avait des... Vous savez, l'aînée d'une famille, c'était elle avait des choses en avance de moi, donc j'attendais qu'elle ait fini de lire Marie-Claire, de lire Astérix, de lire Cosmopolitan. Non, c'était pas... On l'avait pas Cosmopolitan à l'époque. Oui, heureuse, tranquille, solitaire... Bah, j'avais une mère qui nous courait après autour de la table avec le martinet quand même. Donc aujourd'hui, on dirait que c'est pas normal.
Sévère, oui, quand même.
Non, pas sévère. Mmh. Pas sévère, mais il y avait le martinet.
C'est marrant cette histoire de Martinet, parce que bon, on a à peu près le même âge, Françoise. Oui. Et moi, j'étais pareil, dans une leur fille unique, avec des parents bohèmes bourgeois, pas bourgeois, bohèmes artistes,
oui.
Gauchistes, enfin voilà. Et il y avait le Martinet à la maison.
Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Mais ma mère n'était pas une femme heureuse. Ma mère était une musicienne. Elle était. J'ai un rouleau entier de tous ses diplômes de musique, les premiers prix du Conservatoire de Paris et tout. Et elle a épousé un beau monsieur qui était à moitié sourd. Mmh. Vous voyez, c'était pas très
pour
bien parti.
Musicienne, partie. C'est.
Voilà,
c'est
tant voilà, mal. Voilà. Donc je pense que c'était une femme un petit peu frustrée et voilà.
Je vous parlais de l'enfance parce que bon, on peut pas évidemment parler de quelqu'un sans parler de son enfance. Et en plus, quelqu'un qui rentre dans des combats, ça correspond des fois à des combats d'enfance.
I see what you mean. Mm. D'accord, 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 d'accord. Vous vous demandez, bien sûr, sans qu'on ait du tout préparé l'émission, pourquoi j'ai cette fibre rebelle.
Voilà,
cette fibre née dans l'enfance. Eh bien, écoutez, ma maman, donc en tant que femme pas toujours épanouie dans son couple, était pas. Et puis elle avait la parole, ma mère. Elle parlait beaucoup. Mon père était silencieux. Donc, elle n'était pas, je pense pas qu'elle était très heureuse avec lui. Et elle avait une tendance à moi, je dirais, je vais lâcher le mot, à l'humilier quand même. Donc, il parlait pas beaucoup. Et puis, quand il parlait, bah, il parlait pas comme il fallait, comme elle voulait. Donc, elle l'humiliait il avait des très beaux yeux bleus, mon père. Et quand il se mettait un peu en colère, quand il s'énervait, il avait les yeux qui sortaient un peu de la tête. Et elle lui mettait une assiette sous le visage. Tiens, tiens, ils vont tomber tes yeux. Et je détestais ça. J'avais senti ce qu'était l'humiliation. Vous voyez ? Et ça, je détestais ça. Je trouvais ça injuste. Donc, mon besoin de justice, je crois qu'il est né là. De voir comment mon père était, quelquefois, traité. Mmh. Voilà. Et après, j'ai suivi d'autres combats. J'ai une cousine qui vit en Corse, qui a le même nom et prénom que moi. Et j'ai vu, quand nous allions en vacances, qu'elle était traitée différemment de moi. Nous avions le même nom et prénom, à 3 ans d'intervalle. Mais pour aller au bal, moi, j'y allais sans problème. Elle devait demander la permission à son père, à son frère. Moi, j'avais des maillots, c'était l'époque, Nathalie, puisqu'on a presque le même âge, c'était le maillot ficelle. Mm-hmm. Hein, les maillots, il y avait 3 triangles, quoi. Et je me baladais tout à fait impudiquement sur la plage et sur la route, comme ça, alors qu'elle avait des maillots, une pièce, avec des larges épaules. Et je me disais, mais zut, il y en a une qui libérait, l'autre pas, quoi. Mm-hmm. Voilà.
C'est là où est né les premiers sentiments de différence, si ce n'est d'injustice, mais déjà
d'injustice. Ah non, ouais. Je ne me sentais pas différente d'elle, justement. Justement,
ouais.
C'est ça.
Ouais.
On était des filles toutes les deux, on était corses. Elle avait la chance de vivre dans ce village magnifique qu'est la Marine de Mer. Mais elle ne vivait pas les mêmes choses. Elle n'était pas aussi libérée que moi quand même. Mm-hmm. Vous voyez, mes tantes corses disaient à mon père, « Ouais, ta fille, surveille-la, elle se balade comme ça sur la route. » Il disait, « Foutez-lui la paix à ma fille. »
Surtout à la Corse, un peu, enfin, à la fin des années 70-80, c'était quand même encore très resserré.
Moi, j'y suis allée à partir de mes 7 ans. Donc, vous voyez, dans les années 60-67, je ne dis pas que ça, c'est moins... C'est moins machiste maintenant, hein, je crois pas. Je n'y aurais pas vécu, j'avoue, j'aurais étouffé. Mmh.
La petite fille grandit, devient jeune fille. En préparant un peu l'émission, on m'a dit que vous vouliez devenir enseignante.
Et... Oui, 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 oui.
Alors, une passion forte, une envie forte.
Alors, j'ai pas vécu des choses très fortes en fait. Mmh. J'étais un peu étouffée. Ma maman était régulièrement dans des cliniques pour faire des cures de sommeil. Donc ma sœur et moi, on était un peu livrés à nous-mêmes. Mon père faisait régulièrement brûler des poulets et des petits pois pendant que ma mère était en clinique. Donc, écoutez, j'ai fait comme j'ai pu. Je dessinais, voilà. Depuis toute petite, je dessinais beaucoup. Mon père dessinait beaucoup. Dans la famille, j'ai un artiste aussi. Donc, je dessinais. J'ai voulu faire des études de philo-dessin. Je suis allée au lycée Thiers. Après 68, c'était le seul lycée ouvert à la mixité. Je me suis retrouvée dans un lycée avec 1000
garçons.
À Marseille, toujours, ouais. Et nous étions 10 filles qui suivions la section philo-dessin. Je me suis régalée. Je voulais être prof de dessin, carrément. Et puis, j'ai eu je sais pas comment dire ça, la chance, la malchance. Je dirais pas ni l'un ni l'autre parce que je crois que nos erreurs nous apprennent à vivre autre chose. J'ai eu la bêtise romantique de penser que l'homme de ma vie, je le rencontrerai sur cette magnifique plage corse. Eh bien, je l'ai rencontré sur cette plage corse et je l'ai épousé et il voulait que je devienne comptable. Pour m'épouser
jeune,
plus vite. Oui, 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 il avait 7 ans plus que moi, marié à 20
vous
ans.
Vous aviez 20 ans, oui.
Et divorcé à 21. J'ai divorcé à 21. Ouais. Je l'ai quitté. Je l'ai désaimé d'un désamour aussi puissant qu'un coup de foudre à 21 ans.
Et cette jeune fille libre, il y a eu une obligation de se marier ou c'est vous qui aviez envie de vous marier?
Non, pas du tout, pas du tout. Alors, comment dire? C'est intéressant cette question. Il m'avait dit bêtement, si tu épouses quelqu'un, ça sera moi. Vous voyez que ma fibre rebelle, elle n'était pas encore nourrie. Hein. et puis un jour où j'ai pas aimé du tout qu'ils me disent « Oui, quand tu viens chez moi, c'est à toi de faire le ménage et la vaisselle. C'est ma tante qui habite en face qui traverse la rue pour faire la vaisselle. On fixe la date du mariage. » Il avait compris qu'il fallait vite me tenir.
Ouais.
Et puis j'ai détesté ce mariage. On travaillait tous les deux et il refusait d'acheter le pain parce qu'un homme avec une baguette de pain dans le bus, ça le fait pas. Donc j'ai supporté, et j'ai eu la force merveilleuse de me délivrer de ce mariage au bout d'un an et demi.
Pas d'enfant,
je n'en voulais pas avec lui.
On était déjà dans des années... Moi j'ai eu la pilule en 75, 76 je pense, j'avais 16,
17 ans. Je la prenais effectivement, ouais. Je la prenais déjà.
C'était déjà une liberté parce que
oui,
ma mère
oui.
Par exemple m'a toujours dit j'ai vécu avec ton père parce que j'étais enceinte. C'est une chose que nous on n'a pas vécu.
Non, pas ça. En fait, cette question me renvoie au fait que j'étais pas si forte que ça pour partir toute seule de la maison. Vous voyez, j'avais suivi des études de secrétaire pour faire plaisir au monsieur, puis ma sœur était secrétaire, donc on s'était dit que c'était bien. Mais j'étais sous le joug de cet homme et je me suis dit... Je crois que je suis partie en fait de la maison en profitant du mariage. Après coup, je me dis ça, je ne me suis pas révoltée. Bon, le jour du mariage, il pleuvait.
C'est vrai, on dit mariage, le plus vieux mariage.
Et on dit aussi, s'il pleut le jour du mariage, c'est que la mariée n'a pas été sage.
Ah, joli. Un deuxième mariage?
Alors, pas tout de suite. Le lendemain de mon divorce, j'habite seule dans Marseille et je tombe sur une affiche à la sortie de ma salle de danse. Le Parachute Club de Marseille vous invite à sauter. Il faut savoir que je faisais du parachutisme depuis l'âge de 5 ans. Elle ne ricanait pas.
Non.
C'est-à-dire que nous avions la télé très tôt, en noir et blanc, et je regardais tous les films de guerre avec mon père le dimanche après-midi. Et une fois que, vous savez, l'enfant apprend par imitation, eh bien, j'allais dans ma chambre et je sautais de mon lit. Je faisais les roulés-boulés dans mon lit. Et un jour, j'ai fait un sublime roulé-boulé qui m'envoyait dans la vitre. Voilà, premier accident de parachutisme. Et donc, je parlais de mon envie de faire du parachutisme et mon premier mari m'a dit « Ce n'est pas un sport pour une future mère de famille. » Non, d'accord. Et donc, quand j'ai vu cette affiche magnifique, je suis allée m'inscrire au club de para. Et j'en ai fait pendant longtemps. J'ai fait à peu près 200 sauts. Et c'est là que j'ai rencontré mon deuxième époux. Le deuxième homme qui allait être mon époux.
Et qu'il est resté longtemps?
Qu'il est resté longtemps, 27 ans.
Et c'est quand vous étiez mariée avec lui qu'à 35 ans, vous décidez de reprendre des études.
Ouais.
Et pourquoi vers la psychologie?
Alors d'abord, je reprends des études parce que monsieur est militaire. Dans un club de parachutisme, il y a beaucoup de militaires qui sautent dans parachutisme sportif, pas forcément militaire. Et donc, en épousant un militaire, j'étais censée déménager tous les 2 ans. Donc, comme le métier de secrétaire ne m'épanouissait pas du tout, vous pouvez vous en douter, vous, mon caractère, je n'ai pas voulu travailler. Donc, j'ai eu un premier enfant, j'en ai eu un deuxième. Et puis, à mon dernier accident de parachutisme, je me casse une vertèbre.
Celui qui vous a laissé dans le fauteuil roulant?
Oui, celui qui m'a laissé quelques mois dans un fauteuil roulant, qui m'a permis de m'éclater dans un hôpital de rééducation au bord de la mer ailleurs. L'hôpital René Sabran. Et là, j'arrive et je demande, puisque j'avais déjà 2 enfants, je demande au kiné, bon, je sors quand? Il me dit, oh, ben, ça dépend de vous, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je dis, comment? Un os, ça se ressoud dans tant de temps, dites-moi, voilà. Il me dit, mais ça dépend de vous, il y a des gens pour la même chose, ils sont restés 1 an, il y en a qui sont restés 2 mois. Waouh! Entre les cures de sommeil de ma maman et cette réflexion-là, je me dis, waouh, il se passe quelque chose ailleurs que dans le corps. Je vais aller explorer, je veux savoir. Et puis, j'étais aussi une jeune fille très coquette, je le suis encore, je suis très coquette. Et j'avais envie de retravailler. J'avais tenté de vendre des produits de beauté et je m'apercevais que mes commandes étaient celles qui arrivaient en dernier. Elles arrivaient 3 semaines après mes collègues vendeuses. Et quand je le dis à mon mari, il me dit, mais tes lettres, je les poste, oui, quand j'y pense, avec un timbre vert. Donc je me suis dit, il faut que je sorte de là, Je faisais des repas gâteaux avec les copines qui ne travaillaient pas comme moi. J'essayais de les entraîner au musée. Bref, j'étais frustrée aussi. Et j'ai dit à mon mari, écoute, j'ai envie de reprendre des études. Ce sera ou esthéticienne ou psychologue. Il me dit, ah oui, esthéticienne, c'est très bien pour une femme. Que croyez-vous que je fis?
On s'en doute pas.
On s'en doute pas, hein, sans doute pas du tout. Et donc, j'ai tout fait pour intégrer la fac de psycho à Montpellier.
Donc dans les années 90?
Dans les années en 90, oui. Mm-hmm. Dans la mesure où mon époux était devenu pilote militaire, il était devenu pilote de ligne, il lui fallait un aéroport.
Les filles étaient petites alors encore?
C'était des fils.
Ah, vous avez deux garçons?
J'ai deux garçons.
Ah, d'accord.
Ah, mon Dieu, ne me parlez pas de ça. Mon psychanalyste disait que c'était pas pour rien que j'avais des garçons. Je pense qu'il pensait à une envie de pénis, une féministe frustrée qui ne peut vivre que si elle a des garçons. Bref, vous savez tout ce qu'on dit. Et donc, je me suis inscrite en première année. Et puis, j'ai fini docteur.
En 96.
En 2000.
2000
En 2000.
D'accord.
Ouais. Écoutez, j'ai donné une année de relâche en me consacrant à l'association Citoyenne Maintenant. J'en étais devenue présidente, je l'ai été pendant deux mandats. Et
on va parler de tout cet engagement associatif.
J'ai cherché à travailler en étant enseignante pour fuir le mariage. Malheureusement, je n'ai qu'une audition, puis j'ai eu un accident de vie après et je n'ai pas continué. Mais je le regrette énormément.
Ça a été une passion, les études de psycho?
Oui, j'ai tellement aimé ça. J'ai tellement aimé ça.
C'était des espèces d'enrichissement ou des sacs que vous travailliez depuis l'enfance?
Non, pas du tout, parce que j'ai pas du tout versé dans la psychologie clinique ni la psychanalyse. Ça m'horripilait. Je n'y comprenais rien, franchement. Hein. Je demandais aux autres, mais là, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, mais il faut pas chercher à comprendre, il faut sentir. Alors, ça me plaisait pas du tout. Moi, j'étais rationnelle quand même. Donc, je me suis tournée vers la psychologie scientifique et j'y ai trouvé mon miel. J'ai trouvé des choses qui me convenaient, que j'ai appris énormément. La psychologie de l'enfant m'intéresse énormément, la psychologie sociale.
Avant de marquer notre pause musicale, je voudrais parler de quelqu'un que vous citez souvent, c'est Carl Rogers, avec une rencontre qui a justement été déterminante.
Oui. Au cours de ma vie, j'ai fait beaucoup de thérapies différentes. Et puis un jour, j'ai rencontré une thérapeute qui m'a écoutée sans interpréter ma vie, sans interpréter mes propos, sans me juger, avec un regard positif inconditionnel, avec congruence. Elle était elle-même. Si elle se taisait, oui, mais si elle parlait, c'était génial. Quand j'avais pas envie de parler, on jouait par terre. Et j'ai été formée à la thérapie rogérienne en dehors de la fac.
D'accord.
Voilà. Et j'ai adoré que quand on fait une reformulation en tant que psychologue, on sache l'effet que ça fait à l'autre. Parce qu'on avait des labos, des écoutes. On disait, voilà, quand je te dis ça comme ça, qu'est-ce que ça te fait? Ah oui, mais ça me permet pas d'aller plus loin. Ah oui, mais là, tu t'es trompé, tu as fait une mauvaise reformulation, mais ça m'a aidé, tu vois. Et chaque fois, on a fait 3 ans de labo comme ça. Waouh! Ce qui fait que quand vous avez une parole pour faire comprendre à l'autre que vous comprenez, que vous avez envie que la personne soit bien avec vous, la parole est au mieux un peu plus juste, il me semble.
Je vous écoute, j'adore moi. J'adore vous écouter, François.
C'est gentil.
Non, parce que c'est toujours teinté en plus de grande humanité, ça me plaît. Voilà.
Oui, j'aime. Merci.
On va marquer une pause musicale que vous avez choisie pour nous. Et puis alors, vous êtes emballé par cet artiste.
Oui.
Vous me l'avez fait découvrir.
Il faut écouter jusqu'à la dernière phrase, s'il vous plaît, monsieur le technicien. D'accord. Derrière la vitre.
Alors, on va le mettre maintenant pour avoir le temps de l'écouter jusqu'à la dernière phrase.
Merci beaucoup.
Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine êtres qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux on les débride et on s'élance dans le vide. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines,
voyez la fin. Il y a de la colère dans ce qu'elle dit, beaucoup de colère qui n'est pas exprimée. Elle fait genre que ça va. Et puis à la fin, on dit « si tu savais la peine que je cache à l'intérieur ». Moi, je le vois en thérapie pendant que j'écoute les personnes. J'ai tendance à penser que l'agressivité, la méchanceté, les colères, ça vient de gens blessés. Et... on me demande souvent si les féministes ont toutes vécu quelque chose d'horrible. Moi-même, comme d'autres, j'ai un continuum de violence assez costaud dans ma vie. Mais je crois qu'on... Moi, je rêverais d'avoir une vie paisible, de ne pas être féministe. C'est vraiment pas un repos.
Non, non. Et vous êtes toujours sur Radio FM+, avec Françoise Mariotti, qui vient d'ouvrir le débat après cette très belle chanson de Clara Isée. C'est vrai qu'avec une voix surprenante... avec des réminiscences de Barbara, je trouve, oui, dans la voix. Ouais. Barbara qui a aussi écrit des textes très forts. Ouais. Ça va bien parce que parler de cette peine et de cette peur et des révoltes des femmes qu'on est obligé toujours d'expliquer, il faut toujours tout expliquer.
Ah oui. Hein, oui, voilà. Surtout à la jeune génération. Voilà. Mon Dieu, ouais. On n'a pas réussi la transmission. C'est fatigant.
Quand on a parlé un petit peu des révoltes, justement, vous avez situé les premières révoltes fortes à un moment clé de l'histoire que moi j'avais complètement zappé. C'est 1995, la Conférence universelle des droits de la femme à Pékin,
oui,
qui est vraiment une charte refondatrice des droits de la femme. Je ne sais pas, 95 oui, en oui, plus, oui, bon, oui. J'étais jeune maman, hein, ma fille avait 5 ans. Je n'étais pas du tout là-dedans, j'étais dans le boulot, je ne réfléchissais pas à tout ça.
Bah, écoutez, quand j'ai entendu les conclusions de cette conférence internationale qui a lieu tous les 5 ans, hein, c'est une conférence organisée par l'ONU, j'ai entendu, j'étais dans la voiture avec le papa de mes enfants et on allait prendre l'avion, je l'accompagnais dans un vol, et j'entends les femmes, désormais les femmes ont le droit d'avoir une sexualité libre et tout, mais j'ai pleuré. Je me dis, comment ça, on le droit? Mais je croyais que je l'avais depuis toujours, moi, le droit. Comment ça, il faut réaffirmer ça pour les femmes du monde entier? Mais j'ai eu un chagrin, une colère d'entendre ça. Et puis la fin, c'était, et il faut que les hommes s'engagent avec nous. Alors ça, ça a été mon combat de toujours. Quand j'ai créé les Cafés du Genre à Montpellier, j'ai voulu que les hommes viennent écouter. Alors c'est plus la mode aujourd'hui, hein. Le féminisme s'est durci. Parce qu'on en a eu marre de les entraîner. Les hommes, ils n'écoutent pas. Ils sont fatigants. Il y en a très peu. Il y en a si peu qu'à un moment, ils font une faute et on se dit, est-ce que ce sont nos alliés? Il y en a tellement qui m'ont déçu. Voilà, donc cette conférence-là nous permet de créer à Montpellier le collectif Citoyenne Maintenant pour réclamer la parité en politique.
Je vous pose une question un peu intime, mais qui, pour chercher à répondre à la mienne. Je me sens plus aujourd'hui à 60 ans révoltée que je ne l'étais à 20 ans, ou à 30 ans. À 30 ans, j'étais affirmée, je pensais qu'il y avait des choses qui étaient acquises, qui étaient derrière nous, que j'aurais plus rien à prouver sur certains combats. Et je me rends compte maintenant à 60 ans qu'on en a perdu plein des combats, ou avec cet effet, plus que perdre, c'est plutôt cet effet de ressac.
Oui. Oui.
C'est-à-dire qu'on y va, on pense que c'est acquis, et en définitive. Tout doucement,
oui,
le patriarcat, ça reprend.
Ouais, ouais. Le patriarcat capitalisme prend de multiples formes.
Ouais.
Et il est concomitant avec une certaine idée de l'humain. qui est qu'on doit être heureux par soi-même, qu'on doit réclamer l'autonomie par soi-même, et c'est très bien, et en tant que féministe c'est très bien, mais on en oublie les combats politiques, les combats sociaux, les combats qui nous entraînent tous ensemble. Je sais que vous allez me parler de la prostitution, des personnes qui sont en situation de prostitution, et on entend des discours qui me révoltent, mais vraiment, et localement, ce qui se passe aussi me révolte à ce sujet-là, comme quoi ce serait un pouvoir qu'on a sur les hommes, de leur octroyer du sexe moyennant rétribution, heureusement, parce qu'on n'en a pas le désir, donc il faut quand même être payé, mais c'est un monde de violence, vous voyez, et la jeune génération ne comprend pas ça. Virginie Despentes, merci King Kong Theory, ah ouais, j'ai été violée, mais je me suis réalisée dans la prostitution. Il faut expliquer ça, quoi. Donc oui, je vis ça aussi, le ressac. Après, si ça vous vient à 60 ans, Nathalie, bienvenue.
Oui, c'est
bienvenue.
Je suis étonnée d'une révolte plus forte à 60 ans qu'à 30.
D'accord, d'accord.
Je me sens, je trouve qu'on est complètement floués. Je sais pas quand. Et je le retrouve chez certaines jeunes femmes.
Oui, oui, oui.
Par exemple, moi, j'ai deux filles. J'en ai une qui est totalement loin de tout ça, qui n'y pense même pas. Et l'autre qui est alors dans une révolte, puisqu'on est dans révoltes.
Ah oui,
de,
tout à fait.
Alors, très à fleur de peau. Hein, c'est-à-dire que vraiment, je ne sais pas comment elle peut imaginer se construire. D'ailleurs, ça fait partie des générations fluides. Hein. J'aime les hommes, j'aime les femmes, j'aime plus personne.
Tant mieux pour elle.
Non, mais c'est pas d'elle dont je parle. C'est de la génération comme
Oui, oui, oui. Ça veut dire qu'elles n'ont pas trouvé une place où elles sont bien. Quoi. Mmh. Donc, elles en essayent plusieurs. Après, je ne dis pas qu'il faut rester dans une catégorie. Vous m'avez classée dans les féministes militantes. Je ne suis pas que ça.
Mmh.
Vous voyez, je suis aussi douce. J'ai aussi besoin de tendresse.
Oui, non, mais en plus, je ne me le permettrai pas. Parce que moi-même, j'ai horreur des classifications.
Voilà.
On nous en demande tellement. Et en ce moment, avec ce qui se passe en Israël, encore pire, c'est qu'il faut forcément qu'on soit d'un bord ou de l'autre. Rien n'est si simple.
Et donc, oui, mais écoutez, je crois que si on vit des injustices, encore faut-il avoir les yeux éclairés sur ce qu'est une injustice, parce qu'il y a énormément de déni. Vous savez, pendant le confinement, j'ai relu mes cahiers d'adolescente. Et j'ai vécu une aventure avec un homme qui avait le double de mon âge à 16 ans. Que j'avais classé dans, c'était un séducteur, il me plaisait, voilà, on s'est embrassé. Et puis, quand je relis, je m'aperçois qu'il s'est passé quelque chose d'une grande violence. Il m'a carrément enlevée pour me retenir dans sa chambre. Mmh. Il ne s'est rien passé d'éminemment dramatique, mais je me souviens, j'ai relu ce que j'écrivais, je lui disais, mais arrête, je veux pas, arrête. Et je l'avais occulté, ça. Je l'avais classé dans, ça arrive aux filles.
Je réagissais exactement pareil quand je vois maintenant ce que les jeunes filles n'acceptent plus.
Oui.
Ou disent, ou en tout cas, il y a un discours qui ne veut plus l'accepter, parce que je pense que dans l'intimité, il y en a encore beaucoup qui l'acceptent. Mais c'était ça, moi, enfin, quand j'avais entre 20 et 30 ans, dans ma vie de jeune femme libre, j'ai eu des expériences avec des hommes. Je sais que je n'étais pas consentante au plus profond de moi-même. Mais au fond, je le faisais, c'est pas grave. Voilà, c'était pas...
Le devoir conjugal. On sait très bien que si on le fait, on a la paix.
Exactement.
Et puis, se lever et se casser, on n'est pas toutes Adèle Haenel. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à me lever et me casser. Je me suis cassée en mille morceaux. Et Clara Isé parle de résilience dans sa chanson. Et oui, la colère et la violence nous soignent autant que le silence. Mais oui, c'est un moyen aussi. J'adore le concept de résilience qui est très injuste et très mal compris. Parce que...
On se fera une rencontre d'ailleurs. Je l'annonce quand même que on aura des suites avec Françoise, parce qu'on aura il y a plein de sujets. Alors, ça sera avec moi. Je vois que William arrive. Mais ça peut être avec moi. Ça peut être aussi avec d'autres bénévoles de la radio qui aborderont des sujets avec vous comme ça. J'aimerais vraiment que la voix de Françoise Marietti soit forte sur la radio. Et notamment sur la résilience, on ne peut pas parler de tout aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne aussi.
Cette
obligation de résilience, des fois, m'exaspère.
C'est vu comme ça, mais ce n'est pas une obligation parce qu'on n'y arrive pas toutes et tous. Mm. C'est mal compris.
Mm.
En plus, c'est un concept qui est né d'une psychologue, d'une femme. Donc,
vous nous expliquerez ça, Françoise.
Je vous expliquerai ça une autre fois. Il n'y a plus que 10 minutes.
ce que je voudrais quand même aborder, justement, les engagements associatifs. Toute votre vie, vous parliez de votre jeune carrière de secrétaire. Déjà là, il y a un investissement.
Je me suis inscrite parce que ma sœur y était. Et puis, je me souviens qu'à un moment, on m'a demandé d'en être présidente. Je me suis dit, mais elles se trompent toutes ces dames-là, j'ai pas les moyens d'être présidente. Et puis quand même, je me suis dit, bah, si elle me le demande. Et puis je crois qu'à chaque association où je suis allée après, j'ai été présidente. Alors, pas tellement pour...
Le prestige.
Qu'est-ce qu'on prend dans la...
Ça arrive, hein, qu'il y a des gens qui aiment bien être président.
Oui. Enfin bon, c'est très dur parce qu'il faut emporter des équipes, il faut convaincre, il faut stimuler, il faut avoir l'œil partout, il faut... Moi, j'aimais bien convaincre et avoir des projets et je suis très fatigante. S'il y a des gens qui m'écoutent, ne me proposez plus d'être dans une association. Je vais avoir envie d'être présidente, je vais vous saouler, vous allez me maudire, vous allez m'humilier publiquement. Je ne veux pas aller dans une association qui n'a pas envie de moi, qui n'a pas envie des changements que j'ai envie d'apporter parce que j'imagine que j'ai quelques idées. Voilà.
C'est parce que la fonction même de présidente fait que, c'est pas une question de pouvoir, mais un tout petit peu quand
même.
Il y a le pouvoir de faire. Hein, voilà, c'est qu'on a la main.
Ah oui, voilà. Il y a le pouvoir de faire, il y a le pouvoir d'aller voir des gens importants. Et puis quand vous êtes en concurrence avec des personnes qui ne veulent pas que vous ayez ce pouvoir et qui veulent l'exercer seul, eh bien là, ça fait très mal.
Donc, présidente de l'association des secrétaires. Et après, c'était quoi après ?
Alors, citoyenne maintenant. Donc, j'ai tout de suite été, quand ce collectif s'est créé, j'ai fait partie du comité de coordination. Il y avait quelques électrons libres. Je me souviens, Monique Pétard me dit, mais vous êtes qui, vous, là ? Vous êtes de quelle association ? Je dis, mais j'en ai pas.
Elle avait pour but de quoi, cette association ?
Cette association devait promouvoir la parité. La parité dans beaucoup de secteurs. On devait mettre en place la parité.
Tiens, bah, elle était visible, la parité, sur le dimanche.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez vu... Le premier rang.
D'accord. Des élus.
Des élus.
Mm-hmm.
Bon, il y avait Brune Pivet et il y avait Elisabeth Borne. À part que des costards.
Ah hein. Oui, d'accord. Oh, bah, t'es visible. Voyez que... Mais voyez, quand on parlait de transmission, les jeunes filles n'aiment pas la parité parce que c'est humiliant. Mais cocotte, s'il n'y avait pas ça. S'il n'y avait pas ce mouvement d'entraînement. Mais que de... On avait calculé qu'il faudrait 450 ans, encore en étant optimiste, s'il n'y avait pas de loi. Voilà, donc je me suis engagée à Citoyenne Maintenant. Comme je suis scientifique, je me suis engagée aux cercles zététiques du Languedoc-Roussillon. Là aussi, j'ai voulu être présidente. Oh mon Dieu, ils m'ont virée pour féminisme deux fois, quand même. J'ai bousculé, j'avais envie de faire connaître ça. Je suis arrivée, il y avait 10 personnes, maintenant ils font des...
Oui,
j'ai créé l'université d'été pour eux.
Oui, il y avait du
monde.
On
les faisait chez moi, maintenant ils les font au quorum. Donc je pense que j'ai secoué.
Hein.
Après, j'étais présidente territoriale de l'Amicale du Nid 34.
Qui est une association?
C'est une association nationale, l'Amicale du Nid, qui a 15 ou 16 départements, qui est dans 15 ou 16 départements. Mais j'en profite pour annoncer le colloque qui aura lieu le 5 décembre au Salon Jean Ben sur la sexualité des enfants, des adolescents. Et ils parleront de la prostitution, du système de prostitution pour les mineurs et les mineurs. Voilà, donc là j'étais présidente et j'ai voulu faire beaucoup de choses et puis ça m'a fatiguée et je suis partie là aussi, mais je reste administratrice nationale, là ça me plaît beaucoup. J'aime bien travailler sur le plaidoyer, j'aime bien porter des éléments parce que je lis beaucoup sur le sujet, je lis énormément et c'est une association de salariés presque uniquement, donc c'est pas la même chose les salariés et les militants, moi je suis trop militante.
Non, mais
je suis trop militante, c'est terrible de dire ça. Hein.
Non, pas du tout.
Ah bon ?
Non, pas du tout. Moi, je trouve ça formidable parce que justement, aujourd'hui, vous parliez de la colère, Françoise.
Oui. Hein,
vous avez dit le mot colère. Moi, il y a une chose qui m'énerve, c'est aujourd'hui cette obligation aussi de ne plus être en colère, comme si la colère était dérangeante, était sale presque. Je me rappelle déjà de Ségolène Royal.
Oui, je me souviens. Hein,
avec le débat.
Avec Sarkozy.
Avec Sarko, où elle dit, mais oui, bien sûr que je suis en colère.
Madame.
Et moi, je l'avais soutenue parce qu'il y a des fois...
Il y a de quoi être en colère quand même.
Quoi.
Mais il y a quand même un monsieur qui a écrit un joli petit bouquin qui s'appelle « Indignez-vous ».
Oui.
Hein, les éditions, comment ça s'appelait déjà les éditions Pierre, bref. Je l'ai reçu pour un café du genre, ce monsieur. Je lui ai dit, mais indignez-vous, c'est bien, mais dans le bouquin de Stéphane Hessel, il n'y a rien sur le féminisme.
Ouais.
Il n'y a rien sur les immenses violences faites à la moitié de l'humanité. Alors indignez-vous, ben, moi j'ai l'impression de m'indigner toute seule, quoi. Je suis indignée, moi, effectivement.
Mais on se retrouve, quand on a commencé l'émission en parlant de sororité, on s'est retrouvés sur ces... avec
oui.
Martine. Pourtant, Martine, vous, moi, on a des trajectoires extrêmement différentes. Moi, tout le temps dans le salariat, jamais mariée, mais... On était toutes les trois extrêmement différentes. Et pourtant, Dieu sait qu'en sororité, on se retrouvait.
Oui, on se retrouvait, on s'épaulait, on se regardait. On avait la même parole, parce que je crois que l'indignation, quand on veut de l'égalité, qu'on ne la voit pas... Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, il y en a qui ne la voient pas, l'inégalité. Il y en a qui sont bien contentes de... Ah, il y a un mot qu'on dit en féminisme, mais je ne le dirai pas. Il y en a qui ne voient pas, mais c'est confortable de ne pas voir. Mais quand on est féministe, on a une grille de lecture tellement fine. Mmh. Tellement fine. Je me languis le jour où je pourrais tricoter. Tiens, j'ai repris le tricot, d'accord. D'ailleurs, non, mais c'est vrai, il faut bien se calmer. Mais je me languis le jour où il n'y aura plus rien qui m'indignera, mais je crois que ça n'arrivera jamais.
Ben, moi, c'est pas avec moi que ça va arriver, en tout cas,
Françoise Mariotti. Non, tant mieux, j'ai une copine que... d'indignation.
Alors, moi, j'ai déjà noté pendant qu'on discute des sujets d'émission, d'accord. Donc les injustices, la prostitution, la résilience, voilà, ça va être des sujets d'échange formidables dans les mois à venir. Avant de se quitter, je voudrais qu'on parle un peu de choses d'actualité. D'abord, dire que vous êtes une femme d'échange et que vous êtes toujours prête au débat, que quasiment tous les jours, vous lancez un sujet de débat sur Facebook, que vous aimez ça.
Je me fais taper.
Voilà, mais que vous aimez, que vous affrontez le débat. Et ça, c'est important.
Mais oui.
Que vous les avez créés avec, en organisant beaucoup de cafés du genre.
Ah oui, café, le café du genre, une centaine de cafés du genre.
Plein de choses, voilà, que vous êtes. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais. Je voulais parler sur, d'ailleurs, un de vos derniers posts. Il n'y a pas longtemps, moi, j'ai aussi mis un post sur, dans la même journée, je me suis fini Triste Tigre.
Triste Tigre. J'adorais Triste Tigre.
Et j'ai été voir Le Consentement le même mois, le même jour, le même dimanche. Ouais. J'ai fini le matin et après, j'ai été voir Le Consentement. Et justement, sur Triste Tigre, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Eh bien, je l'ai lu d'une traite, je l'ai relu d'une traite et je l'ai rendu à Sylvie qui me l'a prêté. Alors, comment dire? J'ai le temps encore? 2 minutes?
Il nous reste 3 minutes.
3 minutes. J'ai assisté, j'ai relu, merci ma sœur qui m'a fait relire, un interview de Christine Angot face à Sandrine Rousseau. Je trouve que dire « je ne suis pas une victime, je ne veux pas qu'on prenne pour ça ».
Christine Angot, d'ailleurs, je vous coupe, et qui avait poussé Rousseau au bord des larmes.
Oui. Mais j'ai compris pourquoi. On peut en faire un combat politique pour sortir du combat personnel, parce que ce n'est pas bien vu, les autobiographies. Ce n'est pas bien vu d'être victime. Les jeunes nouvelles féministes, elles ne veulent pas être victimes, elles veulent maîtriser. Et je trouve que se défausser en disant « ce n'est pas un livre sur ce que j'ai vécu », alors aussi bien Christine Angot que Voyage vers l'Est, vers l'Ouest, je ne sais plus, vers l'Est, et Neige Sino, leur livre, leur analyse est formidable et on en a besoin, mais se défausser en disant « je ne veux pas qu'on prenne pour une victime ». Et alors, vous avez été victime de choses dégueulasses, ce n'est pas parce qu'on se dit victime que c'est infamant, que c'est humiliant, que c'est rabaissant. Voyez, donc ces livres-là, ils sont nécessaires, ils sont très bien analysés dans le contexte et la structure. Mais cette prudence à dire « ne me prenez pas pour ça, ne me réduisez pas à ça », mais bien sûr, je la comprends. Et c'est dommage. Ce ne sont pas, Christine Angot et Neige Sino, ce ne sont pas des d'énièmes témoignages sur l'horreur qu'est l'inceste, ou les abus sexuels, mais quand même, quoi. Après, on est libre de pouvoir assumer ou pas. On ne peut pas toujours.
Mais c'est la même posture un peu qu'a, d'ailleurs, beaucoup plus dans le film que dans le livre, Vanessa Springora.
Vanessa Springora.
Oui, Springora. D'ailleurs, on en fait, sur la deuxième partie du film, une créature pleurnichante. Et on ne remet pas en cause, on remet en cause l'homme, mais on ne remet pas en cause la complicité de la société à l'époque.
Mais oui, la structure. Moi, en tant que psychologue sociale, j'ai beaucoup aimé remettre les choses dans leur structure. Voilà. Pour ne pas tout faire peser sur l'individu. L'individu n'est pas, il ne naît pas dans quelque chose entre son inconscient et lui, et il se passe plein de choses autour, quoi. Donc Neige Sino, merveilleux, Le Consentement, je l'ai lu mais je ne l'ai pas vu, justement parce que je redoute ça. Oui, je lance des débats, je me fais assassiner par des copines féministes.
C'est pas grave.
Qui trouvent que je ne suis pas assez.
C'est pas grave.
Mais j'ai une marge de progression. Voilà, grâce à vous, Nathalie.
Écoutez, en tout cas, merci beaucoup de ces 40 minutes qu'on filait à toute allure.
C'est vrai.
Mais qui sont, je pense, précurseuses de nombreux débats avec vous, Françoise Mariotti.
Avec plaisir, je suis courageuse aussi. Hein.
Merci d'être venue, merci de cet échange et merci pour cette belle rencontre. À
merci
très bientôt.
À vous. Au revoir.
Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.